Voilà, nous poursuivons cette matinée sur le thème le prix Nobel de la paix au CICR en accueillant Marie-Claire Hook de Marle, qui est professeure émérite en études germaniques à l'université Paris 7 Denis Diderot. Suite à ses recherches sur l'histoire comparée des femmes en France, en Allemagne et en Europe et les rapports entre le féminisme et le pacifisme au 19e et au début du 20e siècle, elle a publié un ouvrage sur Bertha von Suttner, Amazone de la paix, en 2014. Elle a consacré de nombreux travaux à la correspondance de Madame de Staël et du groupe de Coppet, et plus généralement au XIXe siècle avec l'Europe des lettres, réseau épistolaire et construction de l'espace européen. Dans le cadre de ses travaux sur les écritures de la mémoire, elle a co-dirigé avec Georges Bensoussan et Guillaume Dreyfus le numéro 201, paru en octobre 2014, de la revue d'histoire de la Shoah, consacrée à la littérature allemande et la Shoah 1945-2014. Elle collabore actuellement à l'ouvrage collectif « Lieux de mémoire européens » sous la direction d'Étienne François et Thomas Serrier. Le titre de son intervention, « Le prix Nobel de la paix et la guerre ». Marie-Claire, c'est à vous.
Merci pour cette présentation. Je voulais aussi vous remercier pour votre invitation qui me permet de parler, bien sûr, de Bertha von Suttner, mais surtout du prix Nobel de la paix 1917, sous les yeux de vos pétrifiés que je viens de découvrir et qui m'interrogent beaucoup. Donc, je vais vous parler non pas tellement du prix Nobel dans la guerre, du prix Nobel et la guerre, comme c'est indiqué sur le programme, mais un prix Nobel de la paix dans la guerre. Le 9 décembre 1917, Stefan Zweig écrit de Zurich, où il séjourne de novembre 1917 à mars 1919, à Romain Rolland, qui est resté en Suisse après la déclaration de guerre. Je cite Stefan Zweig. Est-ce que je vous ai déjà raconté que j'ai passé d'excellentes heures avec le docteur Ferrière? J'ai écrit un grand article sur la Croix-Rouge. Je vous l'enverrai dès qu'il paraîtra. Donc, le 9 décembre 1917. L'article en question, intitulé « Das Herz Europas », paraît effectivement dans le journal autrichien Neue Freie Presse en date du 23 décembre 1917. Retenez les dates. C'est un long et chaleureux hommage à l'Agence internationale des prisonniers de guerre, AIPG, installée sous l'égide du CICR par les soins du docteur Ferrière dans les locaux du musée Rath à Genève. Je cite un passage de l'article, « Ici bat encore le cœur de l'Europe, car c'est ici qu'à la souffrance véritablement inhumaine répond un sentiment éternel, la pitié humaine. » Relatant la déjà longue histoire de la Croix-Rouge, Zweig évoque avec force détail la mission de plus en plus démesurée de l'AIPG, assurée par des bénévoles de divers pays, et Zweig s'attarde sur le plus prestigieux d'entre eux. Je cite, « Il y avait à cette table de bois brut encore une autre place que l'on me montra avec le plus grand respect. C'est là que Romain Rolland, tous les jours, pendant 2 ans, avait, du matin au soir, travaillé bénévolement au service de l'échange de prisonniers français et allemands. Et quand, au milieu de cette activité, le prix Nobel, doté de presque un demi-million, lui échut, il le mit jusqu'au dernier franc à la disposition de cette organisation d'entraide. » Fin de la citation. Le prix ainsi décerné à Romain Rolland en 1916, d'ailleurs au titre de 1915, est le prix Nobel de littérature, et sa motivation par le comité Nobel contraste singulièrement avec la violence du moment, puisqu'il est décerné, je cite la motivation, en hommage à l'idéalisme de sa production littéraire, à la sympathie et l'amour de la vérité, avec laquelle il décrit les différents types d'êtres humains. Cette attribution du prix de littérature et non de la paix interpelle quelque peu. Romain Rolland, on en reparlera certainement d'ailleurs, est certes l'auteur de Jean-Christophe, très admiré par Stefan Zweig, qui avait dès 1911 œuvré pour sa traduction en allemand. Mais il est aussi l'auteur d'un appel pacifiste que tout le monde connaît, Au-dessus de la mêlée, publié dans le journal de Genève le 23 septembre 1914, et d'un recueil d'articles repris sous le même titre en 1915, et donc son action est perçue dans toute l'Europe, et elle aurait dû lui valoir un prix Nobel de la paix. Ainsi, de même que la motivation du prix Nobel de littérature occulte complètement l'activité pacifiste de Romain Rolland, de même, l'article de Zweig que je citais tout à l'heure sur la Croix-Rouge et la IPG ne fait aucune allusion au prix Nobel de la paix, le seul entre 1914 et 1918, qui vient d'ailleurs tout juste d'être décerné au CICR. Je vous disais tout à l'heure, attention aux dates, l'article c'est le 23 décembre 1917 et le prix a été décerné, comme c'est traditionnel, le 10 décembre. Quant à la Neue Freie Presse, qui publie l'article de Zweig, elle ne mentionne l'événement dans aucune de ses éditions autour du 10 décembre, je suis remontée un petit peu avant, un petit peu après, date donc traditionnelle de la remise du prix. Que signifie un tel silence? Est-ce oubli? On peut le penser, car à l'inverse, ça a été évoqué tout à l'heure, du prix Nobel de littérature décerné parfois difficilement, mais de manière quasi continue, entre 1914 et 1918, le dernier prix Nobel de la paix date, lui, de 1913, décerné à Henri Lafontaine. Est-ce perte de sens d'un prix qui se doit, par son histoire même, de répondre à des critères très précis, testamentairement définis? Et la question se pose d'autant plus que la publication dans certains journaux de l'époque des propositions de candidats, ce qu'on évoquait tout à l'heure, peut étonner. Voilà la réponse. Ainsi, le Figaro note, sans plus de commentaires, dans son édition du 2 février 1914, on mande de Constantinople que l'université de Stamboul, à qui on avait demandé de proposer un candidat pour le prix Nobel de la paix, a désigné l'empereur Guillaume, qui, dit-elle, a ouvert le combat en faveur de la paix. On comprend qu'il n'y ait pas de commentaire. Pour tenter de comprendre ce qui peut apparaître comme un oxymore quelque peu cynique, prix Nobel de la paix dans la guerre, un bref retour sur la fabrication du prix Nobel de la paix, cinquième et dernier des prix touchés sur son testament par le roi de la dynamite, Alfred Nobel, me semble nécessaire. Inventé à la suite des conflits qui ont déchiré l'Europe entre 1859 et 1871, il prend forme dans la dernière décennie du siècle, dans une période donc de paix relative, mais dominée par des conflits coloniaux et entre revanche française et impérialisme allemand affiché, par un climat de Krieg in Sicht, ou de guerre en vue, si vous préférez, permanent, source de militarisation et prétexte à une course aux armements entre grandes puissances européennes. Certes, l'Europe, fin de siècle, ignore alors ce que peut être un conflit mondial à l'échelle de ce qui va se déclencher en 1914, même si une certaine Bertha von Suttner, aristocrate autrichienne devenue pacifiste sur le tard, écrit dès 1898 dans sa revue Die Waffen nieder, je la cite, « Ça brûle. Il se pourrait que soit donné ici le signal d'une guerre mondiale » et elle emploie le terme de « Weltkrieg », elle est la première à l'employer d'ailleurs, « qui peut en prévoir les conséquences. » Hasard ou destin, Bertha von Suttner est une proche d'un prix Nobel. D'abord, très brièvement, elle a été sa secrétaire à Paris en 1875, puis est devenue la chère baronne et amie avec laquelle Nobel entretient jusqu'à sa mort en 1896 une correspondance soutenue. Et c'est là, précisément, que germe, au fil d'un échange parfois tendu, l'idée du prix Nobel de la paix. Je voudrais, écrit Nobel à Suttner le 7 janvier 1893, disposer d'une partie de ma fortune pour faire un prix à distribuer tous les 5 ans, mettons 6 fois, car si dans 30 ans on n'a pas réussi à réformer le système actuel, on retombera totalement dans la barbarie. Ce prix serait décerné à celui ou à celle qui aurait fait faire à l'Europe le plus grand pas vers les idées de pacification générale. Vertement critiquée pour sa naïveté par Bertha von Suttner, qui lui répond, toujours en 1893, « Votre idée de récompense tous les 5 ans, de récompenser tous les 5 ans les gens de bonne volonté ne me paraît pas la plus efficace. » Nobel revoit sa copie et formule le prix tel qu'il apparaît dans son testament de 1896. Je cite, ça a d'ailleurs été déjà en partie cité, « La 5e partie de ma fortune ira à la personnalité, terme important parce que Bertha von Suttner est derrière, si elle avait dit à l'homme ou à l'individu, elle était exclue d'office. » La veiller à ce que ce terme soit dans la formule. La personnalité qui aura le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes ou à la propagation des congrès pacifistes. La formulation est désormais beaucoup plus concrète et inclut nombre d'idées suggérées, je dirais même imposées par Bertha von Suttner, comme par exemple le désarmement qui peut aller jusqu'à la suppression des armées, à l'époque c'était, disons, une provocation, le tribunal d'arbitrage, future cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui existe encore, portée par Suttner lors de la première conférence de La Haye en 1899, et pour laquelle elle plaidera d'ailleurs auprès du président américain Theodore Roosevelt. Ou encore les organismes pacifistes, tels que le Bureau international de la paix, dont Suttner sera vice-présidente pendant 23 ans. Ou encore les congrès de la paix internationaux, qu'elle contribuera pratiquement tous à organiser. Le prix Nobel de la paix, attribué à partir de 1901, se définit donc comme un soutien annuel, plus question de tous les 6 ans, tous les 5 ans, non limité dans le temps, début question des 30 ans, mais est donc distribué à des actions, à des hommes ou des organismes qui œuvrent pour empêcher la guerre, anéantir les armements de plus en plus destructeurs, instituer une juridiction d'arbitrage internationale qui vise à régler préventivement tout conflit à venir. Et les 13 prix Nobel décernés entre 1901 et 1913 répondent aux critères formulés par Nobel dans son testament. Ce sont soit des activistes de la paix, comme Passy, Suttner, Bayer, Fried, soit des acteurs au sein des organismes de la paix, comme Ducommun, Kutschwitz d'ailleurs, Ducommun, Goba, Crémant, Bonetta, La Fontaine, ou encore des organismes eux-mêmes, instituts de droit international ou bureaux de la paix, ou des artisans actifs d'une politique d'arbitrage préventive, comme Theodore Roosevelt, ou bien d'Estournel de Constant. Henri Dunant est le premier, avec Frédéric Passy, il partage le prix avec Frédéric Passy, à recevoir le prix en 1901, et il le reçoit au titre de fondateur de la Croix-Rouge, ce qui suscite au reste tout de suite quelques réserves de la part de ceux qui voient dans l'action de la Croix-Rouge, qui s'exerce évidemment au cœur des conflits, on en a parlé tout à l'heure, une acceptation implicite de la guerre perçue et admise comme une fatalité. Un temps d'ailleurs, Bertha von Suttner, tout en saluant les usages humanitaires imposés sur le champ de bataille par la Convention de Genève de 1864, initiée par Dunant, avait elle-même reproché à Dunant de chercher avant tout ce qu'elle appelait à humaniser la guerre. Mais leur correspondance témoigne aussi d'un rapprochement de leur conception de l'action pacifiste. Enfin, deux exemples. En 1899, lors de la conférence de La Haye, Dunant conseille à Bertha von Suttner au sujet d'une résolution, il l'écrit d'ailleurs tout avec des majuscules, en faveur d'une commission diplomatique permanente de médiation, terme éminemment suttnérien. Et dans sa lettre du 10 décembre 1901, au moment même où le prix Nobel de la paix lui est remis, Dunant assure à Suttner, je le cite, « Depuis plus de 50 ans, je suis moi aussi un partisan déclaré de la paix internationale et un combattant sous le drapeau blanc. » Et conscient du rôle joué par Suttner dans l'élaboration et la formulation du prix, il ajoute à propos du prix Nobel qui vient de lui être décerné, je le cite, « Ce prix, chère madame, est votre œuvre. C'est vous par qui M. Nobel a été initié au mouvement de la paix et c'est par vos exhortations qu'il en est devenu le mécène. » Ce bref retour sur la genèse parfois laborieuse et les interprétations parfois discordantes du prix tel que Nobel lui-même l'avait finalement énoncé révèle d'emblée une certaine fragilité originelle propre à une distinction qui s'inscrit à contre-courant dans un contexte alors forteux, c'est le moins qu'on puisse dire, ouvert aux idées de paix et de désarmement. Alors la question se pose, qu'en est-il lorsque ce contexte devient fondamentalement hostile? En dépit d'un accueil, on l'a vu, pour le moins discret, sinon inexistant, le prix Nobel de la paix, décerné en 1917, ne se réduit pas au dérisoire oxymore de prix Nobel de la paix dans la guerre. Le fait que l'événement se réitère en 1944, même prix décerné au même organisme, le CICR, avec une motivation quasiment analogue, je la cite, pour le travail immense qu'il a réalisé durant la guerre au nom de l'humanité, interpelle sur les mutations de sens imposées par ces moments extrêmes que sont des conflits mondiaux d'une nature inconnue jusqu'alors. Par sa volonté de décerner un prix de la paix en 1917, par le choix affirmé d'un organisme suisse, donc neutre, donc au-dessus de la mêlée, le comité Nobel veut envoyer un signal universel fort rappelant dans sa double motivation, premièrement, les droits des prisonniers de tous les camps, c'est-à-dire sans distinction d'alliés et d'ennemis, et deuxièmement, la nécessité des contacts avec les familles, englobant ainsi l'ensemble des populations civiles. C'était les deux points de la motivation pour la décision du comité. L'année 1917, troisième année d'une guerre abordée la fleur au fusil et depuis enlisée dans une guerre de tranchées, et comme le souligne Landry Charrier dans son ouvrage « L'émigration allemande en Suisse pendant la guerre, pendant la Grande Guerre, un moment clé dans l'histoire du premier conflit mondial. Deux faits majeurs changent, on en a évoqué un tout à l'heure, change le déroulement de la guerre, l'entrée en guerre des États-Unis en avril 17 et la révolution d'octobre en Russie 17 aussi. Mais face à un conflit qui se prolonge, les mentalités aussi changent. Sur le front, on le sait, 1917 est l'année de toutes les mutineries. et à l'arrière, des romans comme Le Feu, n'en cite qu'un, mais on peut en citer d'autres, d'Henri Barbus, c'est quand même le prix Goncourt 1916, relaie auprès des populations civiles, et en particulier des femmes, l'expérience vécue au front, attisant la démoralisation et incitant à un refus de plus en plus affirmé de la guerre et de ses ordres. Partout, mais surtout en Suisse, où se sont réfugiés en ordre dispersé nombre de pacifistes d'avant 14, on reparle de paix en 1917, même si on ne sent en guerre sur sa nature. Est-ce qu'il s'agit d'une paix de compromis ? Est-ce qu'il s'agit d'une paix imposée par la défaite complète de l'Allemagne, et donc la prolongation de la guerre ? Mais d'autres faits sont aussi marquants. La revue pacifiste de Fried, Die Friedenswarte, paraît en Suisse, avec le soutien jusqu'en 1917 de la fondation Carnegie, et la maison d'édition Aurel Füssli publie, toujours en 1917, les volumineuses Rammglossen de Bertha von Suttner sous le titre, intéressant, Der Kampf die Vermeidung des Krieges, donc le combat pour éviter la guerre. Un petit peu tard, mais bon. En 1917, la Suisse opère aussi un tournant et prenant ses distances avec l'empereur Guillaume, qu'elle avait pourtant généreusement fêté en 1912 lors d'une visite d'État, se rapproche des États-Unis où Woodrow Wilson, réélu en mars 17, travaille à ses 14 points, comprenant son projet d'une League of Nations, la future SDN, qu'il présentera au Congrès en janvier 1918. Enfin, élément qui contribue à la résurgence de l'idée de paix, en Suisse du moins, Gustav Ador, président du CICR depuis 1910, est élu précisément en 1917 conseiller fédéral en charge du département politique fédéral suisse. Peut-être que je dis une bêtise, mais c'est, il me semble, l'équivalent des affaires étrangères.
C'était le nom des affaires étrangères.
Et il soutient, passant outre la neutralité de la Suisse, les projets de Wilson, avec à la clé la promesse que Genève soit le siège de la future SDN. Tous ces éléments et beaucoup d'autres... ou que je n'ai pas en connaissance, ou que je n'ai pas le temps de vous exposer, constitue dans la Suisse de 1917 un faisceau de plus en plus structuré autour de l'espoir, sinon de l'idée d'une paix à venir. Et le comité Nobel ne pouvait qu'encourager cette tendance, ce qu'il fait en remettant au CICR le 10 décembre 1917 le seul et unique prix Nobel de la paix pendant la guerre. En conclusion, en motivant le prix en des termes peu conformes aux critères édictés par Nobel lui-même, je rappelle les critères de Nobel, rapprochement des peuples, réduction des armements, propagation des congrès pacifistes, le comité Nobel entérine en fait la rupture avec le monde et le mode d'action des pacifistes d'avant 14. Et parallèlement, il inscrit le prix Nobel de la paix dans un 20e siècle qu'Eric Hobsbawm qualifiera d'ère des extrêmes. Deux décennies plus tard, la même cassure ressurgit avec ce trou béant dans la liste officielle des prix Nobel de la paix, je cite, c'est dans la liste 1939-1943, non décernés à cause de la Seconde Guerre mondiale. Encadré, donc, ce trou noir, encadré par trois nominations, est aussi fort peu conforme aux critères d'origine. En 1938, le prix va à l'Office international Nansen pour les réfugiés, dépendant de la SDN. Je cite la motivation pour son travail dans l'aide aux réfugiés. En 1944, le prix que je citais tout à l'heure, qui est attribué au CICR pour le travail immense qu'il a réalisé pendant la guerre au nom de l'humanité. et en 1947 au Friends Service Council, Grande-Bretagne et USA, je cite la motivation, pour la compassion pour les autres et le désir de les aider. C'est quand même un peu général. L'analogie entre les deux moments de cassure, 14-18, 39-43, cette analogie entre les deux moments de cassure est, me semble-t-il, frappante et témoigne, bien sûr, de l'extension du domaine de la guerre qui touche désormais toutes les populations civiles. C'est pourquoi ce que vous a présenté ce matin, Monsieur le Président, touchait effectivement à ce problème, mais je crois que ça commence plus tôt qu'il ne l'a dit, c'est-à-dire déjà au moment de la Première Guerre mondiale. Mais c'est aussi l'aveu d'un échec des organismes, mouvements et actions pacifistes menant un peu à la Don Quichotte leur combat contre la guerre, leur Kampf um die Vermeidung des Krieges, pour reprendre le titre de leur Alfonso. Le sens originel du prix Nobel de la paix s'est perdu dans un conflit aux dimensions mondes, et qui mieux que Romain Rolland le perçoit dans une lettre de février 1917 à son ami Paul Hamann, je le cite, « Serrons-nous la main au seuil d'un grand adieu, car il est bien probable que nous disparaîtrons tous dans cette convulsion. L'Europe est happée par l'engrenage. Un à un, les neutres entreront à leur tour dans la danse macabre. C'est comme le jugement tragique de toute la civilisation. Nous appartenons aux générations sacrifiées. » Et pourtant, il me semble qu'il faut être reconnaissant à ce prix Nobel de la paix dans la guerre, décerné en 1917, qui ressurgit au cœur de la guerre sous une forme universelle, incluant toutes les victimes de tous les bords. Je vous rappelle que la motivation, c'était les prisonniers de tous les camps et les contacts avec les familles des prisonniers. Car ainsi, le prix Nobel de la paix s'ouvre, aujourd'hui plus que jamais, à ceux et celles qui viennent en aide aux victimes de guerres sans nom, aux guerres civiles, aux génocides, aux exilés, aux émigrés ou aux réfugiés de toutes parts. Je vous remercie.